France Inter.
Quand je parle des autres qu'humains, on pense souvent aux animaux parce que ce sont les plus proches, mais un torrent de montagne est quelque chose pour moi aussi auquel je peux m'identifier, essentiellement par le son.
CO2, mon amour.
Ce son cristallin de l'eau qui coule sur les pierres.
Denis Chessou.
La fluidité, les petites algues qui bougent dans le courant, toutes ces choses-là, mais ça m'émeut énormément.
Sur France Inter.
C'est bien la nature qui chuchote à vos oreilles avec les mots de Philippe Descola dans CO2 Mon Amour. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir avec aujourd'hui Corentin Rouchy à la technique. Notre collaborateur, c'est Pierre Chabert cette semaine et c'est Juliette Gou qui réalise l'émission. Alors la première mouture de cette émission qui a été créée en 1992, donc portant le nom de CO2 Mon Amour, certes elle est maintenant très réorientée nature, mais enfin il faut quand même que justifie un petit peu le titre. Ne m'appelez plus jamais Nevada. Alors non, il ne s'agit pas du titre d'un nouveau western spaghetti italien, mais d'un joyeux constat climatique de plus. Des glaciers, des neiges, il n'y a quasiment plus dans les Andes colombiennes. Ils fondent à une telle vitesse que l'équilibre des survies agricoles et culturelles millénaires des habitants de la région andine sont bouleversées. Les Indiens Arhuaco assistent impuissants à la disparition des grands glaciers tropicaux. 6 glaciers sur 14 ont déjà disparu. Je rappelle que l'empreinte carbone de nos frères humains lointains doit tourner autour de 600-700 kilos par habitant et par an. 9 tonnes pour un Français, 18 tonnes pour un Américain, 36 tonnes pour le Qatar, n'en jetez plus. Bon, inutile de préciser que sans eau de ces montagnes sacrées, toute économie fragile est remise en question et que les Indiens, comme tant d'autres peuples des contreforts de l'Himalaya, n'auront plus qu'à périr ou déguerpir, se réfugier dans les fourmilières de misère humaine que sont devenues les grandes cités de la côte, des plateaux et des plaines. Mais bon, tant que les jeux d'eau animent les bassins des casinos de Las Vegas et des palaces émiratis, pourquoi se faire du souci ? Et puis cette fois-ci, on revient un tout petit peu chez nous dans les Alpes. Amis randonneurs alpins et montagnards aguerris, il va falloir bientôt changer vos habitudes. Si en arpentant les alpages au milieu de paysages sublimes serpentant à travers les rochers, vous voulez admirer autre chose, vous savez, que des brebis, des choucas, un aigle de passage, ce qui est déjà pas mal, il vous faudra bientôt suivre un stage chez les chauves-souris. Ou vous munir de jumelles infrarouges. Je vous explique. Qu'est-ce qu'on nous apprend ? Qu'est-ce que nous apprennent les chercheurs italiens ? Eh bien que les hardis chamois et les fiers bouquetins commencent à passer en mode nyctalope. Eh oui, ils sortent maintenant le soir, descendent manger la nuit, exténués par les températures du jour qu'ils ne supportent plus. Bah évidemment, allez donc crapahuter en plein cagnard avec un manteau de fourrure à 1500 mètres d'altitude, vous m'en direz des nouvelles, vous comprendrez très vite le malaise. Alors la nature est bonne fille, mais les choses vont quand même un peu trop vite. Elle n'a pas encore eu le temps de leur fabriquer par des enfants des costumes légers au Pakistan. Non, problème de délai d'approvisionnement sans doute. Comme des ados, assommés par les heures d'études, ils passent leur journée écrasés de chaleur, de soleil sans filtre sous les canicules alpines. Mais oui, planqués sous la couette où les creux restaient frais, sous la couverture des ombrages forestiers, puisque les forêts montent, alors autant en profiter. Et nos bouquetins, nos chamois ne consentent à montrer au grand public leurs galipettes, leurs parures et leurs jolis museaux qu'une fois la douceur de la nuit quasiment installée. C'est donc la dernière tendance sur les hauteurs et les boîtes de nuit en station, bah bien sûr, vont faire le plein, bah oui, ils vont descendre. Bouquetins, chamois, renards, blaireaux, hermines, et il va falloir faire la queue et se faire apprivoiser par les videurs, qui sont d'anciens ours bruns, donc des costauds. Et si vous, humains, vous n'avez aucune connaissance à l'intérieur, bah ce sera du genre, eh ben non, monsieur le bipède imprévoyant, vous avez cassé le thermomètre et laissé galoper la température, ça ne va pas être possible, restez dehors. Allez, on se retrouve avec Philippe Descola, donc ce grand anthropologue. J'ai eu cette chance inouïe donc de le rencontrer dans le Lot. Ça va être 2 semaines avec lui, avec Philippe Descola. Et comment ça s'appelle ? Bah si, playlist.
Call me up to meet you, static on the phone. Normally I need you, this time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't.
So even if I could, would it go back where we started?
C'était Olivia Dean sur France Inter. Et maintenant, Philippe Descola.
Qu'est-ce qui vous manquerait si vous n'aviez pas ce lot ?
Ah, tout. J'ai beaucoup de mal à imaginer ma vie privée de ces lieux merveilleux.
Je vous rassure, c'est pas le cas. Hein. Donc, c'est quoi ? C'est aussi bien l'odeur, le paysage, le calme, la douceur du vent que nous avons aujourd'hui.
C'est tout ça. C'est sortir le soir et entendre la hulotte. C'est... marcher le long d'une lisière et voir une marthe qui passe tranquillement comme si j'étais pas là alors que c'est un animal très farouche. C'est voir, comme je l'ai vu il y a pas très longtemps, un renardeau insulter une pie devant le potager. Ah ouais. et vice versa. C'était plutôt la pie d'ailleurs qui insultait le renardeau qui était plutôt placide. C'est des choses comme ça. Ce que j'aime dans ces animaux, c'est leur altérité, au fond. On n'existe pas pour eux. Alors que si, de fait, on a transformé les milieux où ils vivent et on est...
Et on en a aussi favorisé. Hein.
Et on a favorisé et on peut être dangereux. Mais pour beaucoup d'entre eux, c'est la suprême indifférence qu'ils manifestent à notre présence. Et ça me rassure.
Rendez-vous avec Philippe Descola, anthropologue de renommée internationale, donc titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France, à la suite de Françoise Héritier. Et alors, en fait, amoureux du Lot, parce que ses parents achetèrent une maison dans ce Lot quand il était enfant, et son premier rapport à la nature vient de cette terre. Il y a joué, observé, respiré cette nature, et a vu aussi ses habitants évoluer. Et après, donc, en partant en Amazonie, à la rencontre du peuple Achuar, avec Marie-Christine aussi, donc sa compagne, il y a vécu quelques années, et donc là, il a vu une petite communauté qui vivait sans détruire la nature. Il nous a bien parlé de cette séparation entre la nature et l'humanité. Donc il nous a fait prendre conscience de cette déconnexion. L'être humain, vous le savez, se sentant toujours supérieur et possesseur, il le paye quand même plein pot aujourd'hui. Alors peut-être un peu moins dans le Lot qu'en ville. Depuis une quarantaine d'années, donc il vit de nombreux mois dans cette bourgade, au milieu des forêts, au-dessus des vignes de la vallée. Et Descola donc a accepté de me recevoir. Donc c'était très simple. Le train, la jolie ville de Cahors, le pont Valentré, le vélo et 40 km plus loin. Eh ben ça y est, on y était. Ah. Oh, bah dites donc, c'est bien pour vous rencontrer, cher Philippe Descola. C'est pas mal, là. Oh, aïe, aïe. Waouh.
D'ici, on voit, en fait, la vallée du Lot. On est un peu en élévation, donc au nord de la vallée du Lot, dans une région qu'on appelle la Bourriane, et qui est un endroit un peu composite, où il y a à la fois quelques causses qui sont typiques du sud du Lot, donc au sud de la vallée, et des forêts de châtaigniers qui sont caractéristiques, disons, de la partie occidentale du Lot et de la Dordogne.
Ouais, parce que tout ça, on est...
On voit la ligne de crête ici, les coteaux sud. Ouais. Donc c'est une région qui, avant le phylloxéra, était assez opulente. La vigne est repartie il y a une cinquantaine d'années. En revanche, la région où nous sommes était une région assez pauvre. On appelait les gens ici les castagnaires, les gens des châtaigniers. C'était une zone quasiment de polyculture vivrière. Oui. Les gens avaient des petites exploitations. Tout ça a disparu à la fin des années 70 et au début des années 80. Oui. Les communautés paysannes que j'ai connues ici, il y a une cinquantaine d'années, ont disparu. Oui. Et on voit, en marchant dans les bois, il y a des restes de maisons qui étaient pour certaines très misérables, mais c'était très occupé.
Ah oui, là-bas, on voit presque une petite...
Gariotte.
Une gariotte, voilà.
Les abris, donc c'était des cabanes en pierre sèche, avec un toit en corbellement, pour s'abriter, mettre des outils, les bergers s'abritaient là aussi. Alors tout ça, par exemple, qui maintenant est boisé, était des vignes.
Ouais.
C'est une bonne exposition.
Ça grimpait jusque-là, oui.
Oui.
C'est ça.
Oui, alors c'était pas du... Évidemment, c'était un vin qui était...
Un peu plus bourru.
Un peu plus bourru, voilà l'expression. Voilà. Mais juste. Et en fait, c'est les négociants du Bordelais venaient acheter le vin ici pour le mélanger.
Bah, ils renforçaient.
Le vin d'Algérie.
Ouais.
C'était une importante source de revenus, parce que la plupart du temps, les gens ici avaient à la fois ces petites exploitations avec des vignes, un peu de blé, quelques vaches, du maïs, et puis des bois. Et lorsqu'ils avaient besoin de capital, ils faisaient une coupe blanche dans les bois, et c'est avec ça qu'ils achetaient une machine, une voiture, quelque chose comme ça.
Ah, et puis il y a quand même la couleur des pierres aussi dans le Lot. Là, votre maison, elle est superbe, donc il y a une tour, donc ancien corps de ferme. Alors, on peut avoir différents mélanges, hein, parce qu'on peut avoir du grès, du granit, et là, du calcaire aussi.
Oui, vraiment. C'est du calcaire. Chaque commune avait sa carrière, et donc les pierres changent d'une commune à l'autre. Si on remonte un peu plus au nord, elles sont taillées beaucoup plus nettes. Ici, elles sont plus arrondies. Mais le joint, qui est fait avec du mortier de la terre de renard, comme on dit ici, c'est-à-dire un sable rouge, donne cette couleur ocre qui vient rappeler celle des pierres.
Alors, face, on va dire, à cette végétation que les hachoirs ne connaissent pas, c'est-à-dire ces tribus que vous avez bien sûr rencontrées, étudiées, observer, parce que c'est ça votre boulot, hein. Vous entrez dans le bocal des autres, hein, quand on est anthropologue,
oui,
c'est un
absolument.
Peu ça.
On sort de son bocal et on rentre dans le bocal des autres. Oui. Ah, oui.
Qu'est-ce qu'il pourrait dire face à cette nature, ou comment serait-il plutôt, voilà, face à ces arbres, même s'ils ne les connaissent pas, mais face à un pré, face à ces arbres, face à une source?
Alors, face à un pré, c'est quelque chose d'original, un pré, puisque... Dans la forêt équatoriale, il n'y a pas de prés, bien sûr. Et depuis quelques décennies, ça a commencé à pénétrer chez les hachoirs, mais ça a disparu ensuite, l'État équatorien avait promu l'élevage. Et l'élevage extensif, qui est une absurdité dans un milieu de forêt tropicale, parce que... Les sols sont pauvres, sont abîmés très vite par le piétinement des animaux. Et le résultat, c'est que les terres qui sont défrichées, et c'est le grand drame d'une partie de l'Amazonie, notamment au Brésil, pour le pâturage, sont détruites. Et ce qu'on fait, c'est qu'on plante des graminées rustiques pour que les vaches les mangent. Mais c'est pas des prés, c'est un mélange de marécages, si je puis dire, parce que très vite, le piétinement des vaches provoque une destruction du sol où l'eau s'accumule. Et on plante des graminées dont il faut couper les feuilles pour les donner à manger aux vaches. Donc c'est catastrophique, c'est complètement dingue en effet. Et l'idée que certains de ces animaux puissent trouver leur chemin jusque dans nos assiettes me désespère, parce que c'est non seulement la destruction d'un milieu de vie qui a été façonné par les Amérindiens, puisqu'on sait maintenant que la forêt amazonienne, sa composition floristique est en grande partie le fait des façons culturales des Amérindiens, c'est-à-dire que non seulement ils ont des jardins où ils plantent un très grand nombre de plantes qui ont été domestiquées dans cette région depuis à peu près 8000 ans, mais ils transplantent des plantes sylvestres aussi, qui sont donc des plantes qui sont utiles aux humains, des palmiers, des fruitiers, des choses comme ça, ou bien ils les épargnent au moment de la bâtie, ce qui fait que lorsqu'on abandonne le jardin, au bout de 5 à 10 ans, les plantes sylvestres vont résister beaucoup mieux à la végétation de recrue qui va coloniser les sarques, donc cette clairière. Et si on pense à ce processus répétant au fil des siècles et des millénaires, ça veut dire que ces plantes utiles à l'homme vont être en beaucoup plus forte densité, qui sont des plantes sauvages, dans les zones qui ont été manipulées ou par les humains. Autrement dit, de ce point de vue-là, la forêt amazonienne, c'est une forêt... J'allais pas dire planté, parce qu'il ne s'agit pas d'une plantation délibérée, mais c'est le résultat d'un mélange entre l'horticulture sur brûlis et l'agroforesterie, qui au fil du temps a complètement modifié la composition végétale, en maintenant un taux élevé de biodiversité, mais de biodiversité utile aux humains.
Oui, donc il y avait quand même un équilibre qui se crée. Alors là, je ne sais pas, là, il serait...
Donc des prés comme ici, ça serait surprenant. Au fond, les seuls que j'ai vus quand j'étais sur le terrain, c'était des petites pistes d'atterrissage créées dans certains hameaux autochtones pour que les missionnaires puissent venir apporter la bonne parole.
Mais face à des arbres comme ça...
Alors, le caractère surprenant ici, c'est le caractère... monospécifique, si je puis dire. Ici, on a principalement des châtaigniers, on a quelques hêtres plus bas, mais ce sont surtout des châtaigniers, alors que la diversité dans un hectare de forêt, dans la région où j'étais, c'est de l'ordre de 80 ou 100 espèces d'arbres différentes à l'hectare. Donc une biodiversité extraordinaire, mais encore une fois, une biodiversité en partie provoquée, disons.
Ah, encore une gariote là. Voilà. Avec le travail de nos anciens qui ont monté tout ça. À d'autres chevals, de mules et sûrement d'hommes aussi.
C'est très frappant et touchant quand on se promène dans les bois ici de voir la masse de travail incorporé dans le paysage.
On va rester en Bourriane, on va rester dans ce très beau département du Lot avec Philippe Descola, juste après avoir fait, allez, voler un oiseau.
Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse, jeté par les vagues, échoue sans cesse, là-bas. À présent, l'orage dort sous la grève. Tout corps et tout, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé, dans le creux de mes pas, reposé. Le soleil perce l'oiseau rayé de ses raides et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vautou. Le soleil perce l'oiseau rayé de ses raides et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vautou. Arrive-t-il d'un pays lointain? Se volatile au regard éteint,
Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus du pauvre oiseau. Reconnu, le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aigus, une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aigus, une poupée vaudou. Rien que je te mette à briller des longs droits lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Rien que je te mette à l'abri des longs droits lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, cruel remords, infatigable oiseau moqueur. Pigeon de mon cœur, épine, cruel remords, infatigable oiseau.
Ben oui, moqueur. Feu Chatterton, l'oiseau. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour les nombreux mails sur le site de CO2 Mon Amour avec l'émission de la semaine dernière avec François Morel, qui est donc notre fabricant d'apô, donc dans le Diwa. Manifestement, ça vous a fait plaisir, mais moi aussi d'ailleurs, en le tournant. Philippe Descola a sorti un ouvrage hein, aux éditions Bayard. Là, vraiment, c'est pour tout le monde. C'est très grand public. Ça s'appelle Avec les chasseurs-cueilleurs, donc aux éditions Bayard. Et il nous rappelle que la nature n'est pas un garde-manger, mais une maison dont nous faisons intégralement partie. Je pense que l'humanité va le comprendre d'ici, allez, entre 50 ans et un siècle. On retourne avec lui dans cette bourriane. Et justement, on va en parler de ces chasseurs-cueilleurs. Alors c'est quand même évidemment là-bas que vous avez réussi, on va dire, à ébranler notre vision occidentale qui fait de l'homme, on va dire, le seul référent de la planète et qui peut donc user de cette nature de façon domestique. Vous avez donné un grand coup de pied là-dedans.
Alors évidemment, je me suis effectivement aperçu que les plantes et les animaux avec lesquels j'avais...
Je passe devant, là, attendez, pardon.
Oui, allez-y, allez-y.
Hop, voilà.
Attention,
ouais, ouais.
Pas trébucher. Avec qui j'avais une certaine familiarité et un sentiment d'être dans un... au fond, en connivence. Ça pouvait aller beaucoup plus loin que cela, en ce sens que les... En Amazonie, chez les Alchoirs, je me suis aperçu que ce que j'étais venu étudier, parce qu'au départ c'était mon projet, c'était de savoir comment une population autochtone se débrouille avec son environnement. Et je me suis aperçu d'abord que le terme d'environnement n'est pas tout à fait bien choisi, parce que...
Ça veut dire qu'on se met au centre de l'affaire,
c'est
ce qui environne l'être humain. Oui.
C'est un entourage.
Voilà.
Et que d'autre part, les Alchoirs considèrent les plantes et les animaux... comme des personnes avec une âme, avec un esprit, avec qui on subjectivité, avec qui on peut communiquer, échanger des messages. Et donc, sans faire de l'irénisme, c'est-à-dire qu'ils mangent les plantes qu'ils cultivent et avec lesquelles les femmes communiquent, les hommes chassent les singes avec lesquels ils entretiennent des dialogues dans les rêves, etc. Mais néanmoins, ce sont des alter-ego, ce n'est pas des objets inertes soumis à notre bon vouloir, qui deviennent des ressources matérielles pour la vie humaine et donc extérieures au monde de la sociabilité humaine. Et donc ce contraste m'a beaucoup frappé. Et en revenant ensuite en Europe, après quelques années passées chez les Alchoirs, je me suis aperçu que c'est nous qui étions exceptionnels. C'est-à-dire que c'était les occidentaux, les modernes, parce que un peu partout dans le monde, cette continuité qui peut prendre de différentes formes,
entre le vivant, le non vivant,
entre le vivant et le non vivant, entre les humains et les autres qu'humains, cette continuité et ces discontinuités ne passent pas par les mêmes critères non. que les nôtres.
Bah, d'ailleurs, chez eux, enfin, y a pas de protection au sens où on l'entend nous. C'est-à-dire que nous, on est très, on doit protéger la nature, par exemple.
Bah, quand on n'a pas détruit la nature, on la protège pas, évidemment. Ça veut dire l'idée de protéger la nature suppose d'abord qu'on la maîtrise, qu'on la domine, qu'on la contrôle et qu'on a commencé par la détruire et qu'il faut donc une action de réparation. C'est d'ailleurs intéressant que dans l'histoire héroïque de la protection, attention à pas trébucher si vous...
Oui, c'est pas très simple, voilà.
Les premiers parcs naturels, le premier parc naturel, Yellowstone aux États-Unis, était en fait un contrairement à la légende que a longtemps propagé le service des parcs aux États-Unis, était un endroit qui était occupé par des Amérindiens. Épisodiquement, mais néanmoins, et la légende qui a été propagée par le service des parcs, c'est que comme il y avait des geysers, ils avaient peur des geysers.
Ah.
Alors qu'en réalité, ces geysers jouent un rôle important dans les rites localement. Et donc on a viré les Amérindiens, qui étaient des Shoshonis, de façon à préserver cette nature telle qu'elle pour la délectation, en quelque sorte, des colons, des grands bourgeois américains qui venaient explorer le caractère sublime de cette nature qui leur avait été donnée par Dieu pour qu'ils la conservent et la maintiennent en l'état.
Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si, au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'empire du diable.
Alors justement, Philippe Descola, quand même, revenons un tout petit peu à des temps plus anciens, parce que cette notion donc de naturalisme que l'on a donc créée, c'est-à-dire cette différence entre les humains donc et les non-humains, ça remonte à quand ?
La séparation entre la nature et l'humanité, c'est un processus de décantation qui a pris très longtemps, qui commence avec l'invention de la phusis en grec, c'est-à-dire l'idée que il y a des phénomènes qui se manifestent spontanément et qui ne sont pas le résultat de l'action humaine ou du caprice des dieux. Et donc les physiciens, les médecins, les philosophes, disons grecs, ont développé une forme de matérialisme avec l'idée qu'il y a des choses qui sont foussaines par nature. De ce fait, cette idée de nature comme un phénomène qui renvoie à la spontanéité de la croissance, etc., s'est développée avec le concept de nature, précisément, qui étymologiquement renvoie à la naissance, nascor, c'est-à-dire ce qui se développe par soi-même. Cette idée, a été en partie transformée aussi par le christianisme, c'est-à-dire par l'idée une extériorité entre le créateur et la chose créée.
Ah bah oui, bah c'est surtout si Dieu il a fait tout le boulot en 7 jours, enfin il a reposé, etc. Il a créé la nature, il a créé les hommes.
Enfin. Tout en confiant aux humains le soin de prendre soin de la nature, précisément.
Bah c'est peut-être là qu'il est un peu déçu.
Ouais, c'était là que, effectivement, on n'a pas tout à fait rempli le contrat. Souvenez-vous que Adam a reçu le privilège de nommer les animaux, c'est-à-dire de leur donner une existence culturelle en les identifiant. Donc ce mouvement, c'est une deuxième séparation, si on peut dire, et puis la troisième, elle est née, en tout cas dans les textes, au XVIIe siècle, avec la philosophie des savants comme Descartes, comme Galilée, comme Bacon, qui a introduit véritablement la nature comme un domaine de régularité extérieure à l'action humaine qui peut être investigué par la science.
Microscope, télescope, par exemple.
Tous les instruments qui permettent en effet de modifier le regard sur la nature et qui peut être mathématisé, c'est-à-dire dont les propriétés, ce qu'on appelle les qualités premières, c'est la masse, la vitesse, l'accélération, tout ce qui peut être mesuré permet de rendre compte des caractéristiques de cette nature, tandis que les qualités, ce qu'on appelle les qualités secondes, cette distinction entre qualité première et qualité seconde est quelque chose de très important pour la philosophie européenne. Les qualités secondes, c'est tout ce qui est expérimenté de façon sensible par les humains. Et ça, c'est peut-être une source de satisfaction, ça peut être bien des choses, mais c'est quelque chose qui n'est pas l'objet d'un travail scientifique. Et donc, ces divisions successives ont abouti à cette idée qui s'est développée d'abord dans les élites, parce que ici, au XVIIe siècle, je ne pense pas que les gens considéraient que la nature était extérieure à leur sphère d'existence quotidienne.
Non, ils faisaient avec.
Ils étaient en continuité avec la nature, mais ça s'est développé dans les élites et c'est devenu peu à peu cette idée qu'il y a d'un côté un monde d'autres qu'humains avec des régularités qu'on peut sur lesquels on peut enquêter, qu'on peut comprendre, décrire dans des lois, etc., qui peuvent être transformés en ressources et donc servir aux humains parce qu'ils n'ont pas d'intériorité, ils n'ont pas une âme, ils n'ont pas une subjectivité.
Donc on peut en faire un peu ce qu'on veut.
On peut les employer à développer la richesse et l'accumulation infinie des richesses.
Qui est
devenue l'obsession du capitalisme industriel et qui, effectivement, a très bien réussi, sauf que nous observons à l'heure actuelle les impasses de ce modèle et les conséquences catastrophiques de cette illusion.
Et qui a commencé d'ailleurs aussi en Angleterre, c'était avec l'accaparement, on va dire, des terres. Ça a commencé comme ça, le capitalisme aussi.
Oui, c'est très important, ce qu'on appelait le mouvement des enclosures, c'est-à-dire quand des individus ou des collectivités ont décidé de transformer des communs, des biens qui appartenaient à des communaux, à des collectifs, des forêts, des pâtures, en propriétés privées, en les clôturant. Et le résultat de ce processus d'accaparement a été de permettre précisément l'accumulation, ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital, c'est-à-dire le fait que les individus ont pu transformer ces ressources en capital et développer ainsi des inégalités profondes de richesse qui ont été accentuées par l'expansion coloniale, bien sûr, c'est-à-dire que les mêmes communs, mais qui étaient des communs, des autochtones, ont été appropriés, leur travail a été approprié aussi.
Ce qui fait que les humains étaient aussi des choses.
Les humains étaient effectivement naturalisés.
Est-ce que c'est aujourd'hui pour vous à la fois les grandes faiblesses de notre humanité et puis aussi ses grandes forces ?
Ah, une question difficile. Je pense que les faiblesses, c'est la voracité, c'est la volonté d'accumuler toujours plus Et la grande force, c'est l'imagination. C'est la capacité de se projeter au-delà de soi-même, dans des temps différents, et d'imaginer des solutions alternatives aux manières de vivre ensemble.
Ça veut donc dire qu'on peut aussi avoir un espoir, à condition que l'on change un peu de récit ?
Oui, il faut inventer des nouveaux récits. Je pense que c'est très important de laisser de côté les récits anciens, ceux qui sont fondés sur l'appropriation, sur l'exploitation, sur la domination, et d'inventer des nouveaux récits qui soient plus inclusifs. Ça ne se commande pas.
Oui. Les deux mots vraiment qui vous caractérisent, mais comme j'espère beaucoup de personnes, c'est-à-dire c'est différence et diversité.
Bien sûr, je pense que la diversité est une valeur par excellence. C'est une valeur, c'est-à-dire une valeur normative qui doit être défendue indépendamment de ses utilisations. On insiste beaucoup sur la biodiversité comme étant quelque chose d'utile pour les humains.
Côté utilitaire. Absolument.
Mais c'est pas l'utilité qui compte, c'est le fait que le monde est infiniment divers et que c'est ça qui fait sa richesse et sa beauté.
Ouais. Ben c'est ça qui est formulé avec Philippe Descola, c'est qu'il nous dit qu'il convient quand même de refaire société enfin donc avec la Terre. Alors on ne sait pas saluer pourquoi, eh bien parce que la semaine prochaine nous serons toujours dans cette bourriane, nous serons toujours dans le Lot avec donc Philippe Descola. Si vous voulez aller sur le site de CO2 Mon Amour, vous aurez d'ailleurs aussi quelques photos. Voilà, donc ça va être deux semaines avec Descola. Merci encore pour son accueil ainsi que celui de Marie-Christine, donc sa femme aussi donc anthropologue. Puisqu'on a un peu parler d'arbres, je vous rappelle que sur l'application Radio France, vous avez donc un podcast avec 5 épisodes qui s'appelle tout simplement « Auprès de nos arbres ». Là aussi, vous vous ferez du bien. Merci à Nicolas Delmas qui a mixé donc ce reportage, à Juliette Gou qui a colorisé cette émission, l'a réalisée, et à Pierre Chabert qui nous a donc accompagné donc cette semaine, et Thierry Dupin qui a choisi les disques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de choses. Agréable. Ah bah oui, bien sûr. Un petit coup d'Instagram si vous le souhaitez, un petit coup de Twitter, du tout. Enfin voilà. Si vous en avez envie. Et puis surtout, excellente fin de dimanche.